Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, comment parler d'une info qu'on n'a pas ? Soit un avion qui disparaît des radars avec plusieurs dizaines de passagers à bord. Soit une chaîne de radio, de télé, un journal en ligne qui traite de l'actualité immédiate, en direct. Sachant que vous ne pouvez pas ne pas parler de cet événement, que votre ADN vous pousse à lui accorder une place importante, mais que par ailleurs, vous ne disposez pour toute information que la disparition du dit appareil, comment allez-vous remplir vos prochaines heures d'antenne ? Eh bien voilà à peu près le défi auquel sont régulièrement confrontées les rédactions, pas seulement celles des chaînes d'info, on continue d'ailleurs. L'emprise du direct est telle désormais sur la façon d'informer, il suffit de voir le succès actuel de l'application Periscope et la concurrence impitoyable entre les médias qu'il faut bien être présent, même quand on n'a pas grand-chose d'autre à proposer que des hypothèses. Les dernières catastrophes aériennes, les attentats de l'an dernier en ont fourni une intéressante illustration. Alors comment parler d'une info qu'on n'a pas ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, quatre journalistes avec nous ce soir. Fabienne Sintès, bonsoir.
Bonsoir.
D'habitude, on vous dit bonjour. Vous êtes aux commandes du 6-9. Oui, c'est vous qui dites bonjour. Commande du 6-9 de France Info depuis septembre 2014. Quand je dis aux commandes, c'est aussi parce que c'est vous qui êtes à l'antenne sur ces trois heures. Vous étiez auparavant correspondante permanente de Radio France à Washington. Pour discuter avec vous, Luc Amanger, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef d'iTélé, une des chaînes de télévision d'information en continu. Vous avez été reporter de guerre pendant une dizaine d'années, notamment en Irak. Troisième invité, Julie Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice du CFJ, le centre de formation des journalistes, une des principales écoles de journalistes françaises. Et quatrième invité, Jonathan Pariente, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Monde.fr, la version en ligne donc du Monde, qui propose régulièrement des lives, c'est-à-dire du suivi en temps réel de certaines actualités, actualités prévisibles ou un peu moins prévisibles. Ouais. Ce sera justement l'objet de la discussion de ce soir. Alors je voudrais tout de suite qu'on prenne un cas d'école, un cas qui nous a été inspiré dans l'actualité, c'est la raison pour laquelle on fait l'émission de ce soir, c'est donc la disparition de cet Airbus entre Paris et Le Caire. Nous sommes le jeudi 19 mai 2016, l'avion disparaît des radars précisément à 2h26 du matin, les premières dépêches Reuters pour signaler cette disparition apparaissent à 5h20, l'AFP c'est une minute plus tard, à 5h21. J'imagine Fabienne Sintès qu'à ce moment-là vous êtes déjà à France Info.
Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au sein de la rédaction de France Info ?
Eh ben, à ce moment-là, on se dit attention, il faut regarder de près, mais on ne fait rien. Il ne se passe rien à 5h20, à 5h30, il ne se passe rien à 6h, il ne se passe rien. Et puis il y a je crois que c'est la confirmation officielle d'Égyptair, la première vraie confirmation officielle, qui est venue d'ailleurs par Twitter. Qui nous fait dire que ok, il se passe quelque chose. Nous, on a ouvert le journal de 6 heures avec un papier qui venait d'Égypte de François Mferkataji, qui est le correspondant au Caire pour Radio France, qui nous a raconté effectivement ce qu'il savait, c'est-à-dire pas grand-chose, mais voilà ce qu'a tweeté Égyptair, voilà ce qui semble-t-il s'est passé. On a su très vite, dans mes souvenirs, je me souviens un peu du timing, qu'il y avait 29 Français à bord. Je me souviens plus exactement du timing en fait, mais assez vite. Et nous, on a effectivement, puisque c'est l'objet du débat, on a cassé l'antenne comme on dit, c'est-à-dire qu'on est devenu monomaniaque sur cette information à 8 heures, pas avant 8 heures. C'est-à-dire qu'on a eu des gens au téléphone, on a parlé à Michel Polaco qui est le spécialiste aéronautique de Radio France. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a plus de signal sur un radar? Qu'est-ce qui a pu se passer précédemment dans des cas similaires? Qu'est-ce qui s'était passé lors du Rio Paris? Enfin voilà. Effectivement, on est dans ce genre de conjecture, mais on reste dans nos formats normaux et habituels. On a cassé l'antenne qu'à partir de 8h.
Donc il se passe un peu moins de 3h entre le moment où vous apprenez l'information et le moment où vous décidez de passer en édition spéciale. Ça s'est passé d'une manière assez proche, oui, à iTélé, Luc Amanger.
Très proche. On a dû partir en spécial un petit peu plus tôt que France Info, à partir du moment où on estimait qu'on avait réuni suffisamment d'informations, de correspondants au téléphone, qui nous permettaient, pour parler dans le jargon qu'on utilise, de tenir une édition spéciale. Parce que c'est pas le tout de déclencher une édition spéciale. c'est-à-dire chez nous, de, comme on dit, de tout passer en jaune, c'est-à-dire avec les titres en jaune, et on devient effectivement avec monomaniaque, avec une seule information.
Les titres en jaune, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit que c'est jaune, c'est que c'est important, c'est que c'est...
C'est-à-dire que tout simplement, les studios passent en jaune, les studios physiques d'ITD passent en jaune, le fond est jaune, et les bandeaux d'information passent en jaune avec une petite inscription édition spéciale, c'est-à-dire qu'on ne fait plus que ça, et on chasse toutes les autres informations, on enlève la publicité, on enlève toutes les chroniques qui peuvent exister, sport, culture, et voilà. Mais pour faire ça, on attend un petit peu d'avoir suffisamment d'éléments, d'avoir des confirmations. Il y a un certain nombre d'outils, mais je pense que mon confrère du Monde en parlera beaucoup mieux que moi, des outils qui nous permettent aujourd'hui, au-delà des spécialistes habituels de la maison, c'est-à-dire le spécialiste des questions terroristes, parce que quand c'est un avion Paris-Le Caire, immédiatement, il y a quand même la suspicion ou l'inquiétude que ce soit un acte terroriste. Les spécialistes aériens qui travaillent régulièrement chez nous, les correspondants effectivement en Égypte, on envoie des équipes à Roissy, et puis il y a un certain nombre d'outils qu'on apprend à mieux maîtriser petit à petit, les flight radars qui nous permettent de savoir, de voir les trajets des avions, les sites spécialisés de marine qui indiquent les positions GPS de tous les bateaux dans le monde et qui nous ont permis de voir assez rapidement qu'un certain nombre de bateaux étaient déroutés tous vers le même endroit de la Méditerranée, donc de comprendre qu'il y avait bel et bien un crash en mer et à peu près où, parce qu'on voit des petites positions de bateaux qui bougent. Voilà, tous ces éléments qui aujourd'hui nous permettent de déclencher une spéciale.
Alors en notre temps, sur un tel sujet, on n'aurait peut-être pas invité un journaliste du Monde, sauf qu'avec évidemment le développement de l'information en ligne, vous aussi, d'une certaine manière, Jonathan Parienté, vous êtes confronté à l'information en continu. Alors d'abord, même question qu'à Fabienne Sintès et à Lucas Manger, est-ce que vous avez choisi, alors à ce moment-là ou un peu plus tard en tout cas, de faire un live sur cette disparition de l'Airbus?
Ah oui, effectivement, on a fait un live sur cette disparition. L'heure exacte du début, je ne saurais pas vous la dire. Pour une raison qui est simple, c'est que la nuit, le monde.fr est mise à jour, mais par une équipe de journalistes du Monde qui sont à Los Angeles. Et donc jusqu'à 7 heures, c'est eux qui ont les clés de la maison. Et je n'ai pas l'heure exacte de début. On a à peu près les mêmes réflexes, mais il y a quand même une énorme différence. C'est que nous, pour tenir une édition spéciale, enfin un live en l'occurrence, on se pose les mêmes questions. Est-ce qu'on a suffisamment d'infos? Est-ce qu'on est suffisamment nombreux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce que c'est une situation qui évolue? En fait, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Mais la grande différence avec mes confrères de la radio et de la télé, c'est que si on n'a rien à dire pendant un quart d'heure, c'est pas très grave, parce qu'on peut prendre le temps et si on a une entrée toutes les 10 minutes ou même tous les quarts d'heure, c'est pas dramatique pour nous.
Sauf que si moi je suis lecteur du monde.fr et que je vois qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y a pas d'information qui a été réactualisée, je vais peut-être aller voir ailleurs.
Ça, c'est le risque, mais nous, notre principale préoccupation, c'est surtout de dire que des choses qu'on a vérifiées par nous-mêmes. Et parfois, ça prend un quart d'heure. Après, ça veut pas dire que on fait pas des redites, on fait pas l'équivalent d'un flash info sur France Info, justement pour rappeler ce qu'on sait déjà.
Alors, ouais. Être capable de réagir vite et tout en ayant assez peu d'informations, finalement, ça demande des compétences particulières, notamment des compétences d'hyperréactivité, tout en faisant attention à ne pas raconter n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est une dimension que vous prenez en compte, vous, aujourd'hui, Julie Joly, dans le cadre de l'école que vous dirigez, le CFJ?
Ça demande, à mon sens, plusieurs compétences. D'abord, le fait d'aimer l'actualité et d'avoir envie de la traiter à chaud, tout de suite. Ça demande de savoir vérifier les sources et de trouver les bons experts. Nous, les étudiants sont mis, dans toutes les écoles de journalisme d'ailleurs, sont mis dans les conditions du réel. Donc on ne va pas faire des flash infos sur Égyptair en particulier, mais à tout moment de la semaine et de leur formation, ils vont avoir à traiter des sujets d'actualité forts, qu'on va venir perturber le quotidien de leur semaine. Ce qu'on leur dit, évidemment, c'est que, encore une fois, l'absence d'information peut être une information en soi, que le conditionnel...
Alors dans quel cas, par exemple ?
N'est pas du tout interdit. Il n'est pas interdit. En revanche...
Ce que je veux dire, vous dites l'information peut être une information...
L'absence d'information peut être une information.
Oui, pardon, l'absence d'information.
Voilà. Le fait de ne pas avoir d'information à un temps précis n'interdit pas d'aller chercher des éléments de contexte. Si on n'a pas accès tout de suite à l'information, il y a quand même une attente normale et légitime des auditeurs, des spectateurs, qu'il faut savoir aussi y répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve ça intéressant d'entendre Fabienne Sintès, Lucas Manget,
et vous
et Jonathan aussi, bien sûr, parler de la façon dont on alimente et on cherche des éléments de contexte. Donc ça, on l'apprend aux étudiants. Il n'y a pas de sujet qui ne mérite pas d'être traité à partir du moment où il vient casser l'actualité. Donc l'absence d'information ne doit pas justifier le fait de ne pas traiter l'information. En revanche, le conditionnel, inventer une information, la traiter au conditionnel, est absolument impossible si c'est ça l'information. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir à la fois, c'est pas le conditionnel qui va déclencher l'information, c'est pas l'avion se serait écrasé qui va déclencher l'information. L'avion s'est bel et bien disparu, elle est là l'information, on ne sait pas encore pourquoi, on va chercher des éléments de contexte. Donc c'est ça qu'on en apprend, c'est à définir ce qu'est une information, et pas seulement, et les moyens d'enquêter autour. Encore une fois, donc l'avion a disparu, qu'est-ce qu'on peut raconter autour, quels sont les éléments similaires autour, ce que vous venez de raconter en réalité. Donc on les met dans ces situations de contexte qui sont celles du réel. Donc encore une fois, comment on se prépare à ça, en pratiquant le métier quotidien, oui.
Alors pour poursuivre justement sur la mise en place de ces éditions spéciales, est-ce qu'il y a un certain nombre d'automatismes, par exemple Fabienne Synthèse, vous évoquiez tout à l'heure, alors on a appelé Michel Polaco, ancien patron de France Info, qui est un grand spécialiste des questions d'aéronautique et qu'on appelle systématiquement, mais qui lui, à ce moment-là, n'a sans doute pas forcément plus d'informations que ça. Est-ce que l'idée, en tout cas, à la base, c'est de se dire, voilà, on sait qu'on est en édition spéciale, on a, mettons, une heure, deux heures à tenir, et il faut absolument trouver des séquences qui, sans trop se mouiller parce qu'on ne sait pas ce qui s'est véritablement passé, vont nous permettre de tenir jusqu'au moment où de nouvelles informations vérifiées arriveront.
Enfin, l'idée de tenir, alors il y a un peu de ça, j'aime pas trop l'idée de ce terme. En fait, l'idée, c'est d'essayer de nourrir sans abreuver, en fait, donc de trouver cette limite entre les deux. Et pour nourrir, effectivement, il y a voilà ce qu'on sait, voilà ce que nous ont appris telles sources par rapport à telles autres. Voilà ce que précédemment on peut vous dire de ce qui s'est passé. Voici, enfin, ce qui a pu se passer dans des pays similaires. Voilà des éléments de contexte sur là où nous sommes. Lucas parlait de terrorisme tout à l'heure. C'est vrai que ça nous est tous venu à l'esprit. On a tous effectivement comparé et l'avion russe dans le Sinaï six mois auparavant, etc. Voilà. Voilà les éléments de contexte. Voilà ce qu'on sait. Voilà ce qui se passe. Et pour le reste, on n'en sait guère plus. Donc voilà, l'idée, c'est pas de tenir comme on s'accrocherait. Quand il y a définitivement vraiment rien à dire. Tout à fait honnêtement, j'ai pas souvenir de m'être retrouvé devant un blanc abyssal et catastrophique. En fait, alors oui, il y a sûrement un sentiment d'une forme de répétition d'une heure à l'autre de la part des gens qui nous écoutent. Mais c'est vous qui le signaliez tout à l'heure. Toute la difficulté chez nous, je ne sais pas si c'est un paradoxe ou pas, je ne crois pas, c'est aussi le monde qui va comme ça aujourd'hui. Toute la difficulté chez nous, c'est qu'à partir du moment où les gens savent, c'est-à-dire qu'il y a eu des tweets, il y a eu des alertes, il y a eu ça, ils vont sur France Info et nous, on est en train de parler de l'euro 2016, c'est pas possible. C'est décrédibilisant même pour l'antenne que nous sommes. Donc l'idée, c'est pas on va dire tout et n'importe quoi pour le plaisir, parce qu'une info plus un démenti n'égale pas deux infos. C'est deux conneries, on est d'accord. Mais on peut pas, dans la tête de l'auditeur, on va pas se mettre à dire, écoutez, pour l'instant, on n'a rien. Donc on va vous parler d'autre chose pendant une heure et ensuite, on reviendra. C'est un truc qu'on a absolument plus le droit de faire aujourd'hui.
Donc ça demande un sens de l'improvisation et aussi, j'imagine, un peu de préparation. Vous évoquiez, Fabienne Synthès, le sentiment qu'il peut y avoir de répétition d'une heure à l'autre. Mais aussi, dans le cas d'un crash, en tout cas d'une disparition d'avion, d'une disparition ou d'une catastrophe à l'autre, est-ce qu'il y a aussi peut-être des éléments qui sont préparés à l'avance? On sait que dans les rédactions, par exemple, il y a des nécrologies qui sont préparées à l'avance pour le cas où une personnalité va disparaître.
Il n'y a pas de nécro d'avion.
Non, il n'y a pas de nécro d'avion, mais en tout cas, je veux dire, il y a déjà, par exemple, un résumé de les principales catastrophes aériennes de ces 20 dernières années, et il suffit de ressortir voilà, un élément.
Non, ça ne se passe pas comme ça, Lucas. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a des mécanismes qui sont régulièrement... Il est vrai que ces derniers temps, et aussi avec le terrorisme en France, nous avons fait, à ITLE, de plus en plus d'éditions spéciales et des éditions, vous disiez deux heures d'édition spéciale, celle de l'avion, en l'occurrence du dernier crash chez nous, a duré plus de 24 heures. Donc c'est beaucoup plus long que ça. Mais les mécanismes ont été intégrés au fur et à mesure par toute la rédaction, parce que notre promesse, comme celle de France Info, c'est quand il se passe quelque chose, d'avoir des informations à donner. Et vous parliez du vide ou de la page blanche. Il se trouve que nous, on a un cas un peu d'école à ITLE, qui a été le déclenchement, la tuerie à Charlie Hebdo. Puisqu'il se trouve, je peux en parler, c'est un souvenir très proche pour moi, et il se trouve que j'étais à ce moment-là aux manettes de la chaîne, et que j'ai su, par quelqu'un de très proche qui était à l'intérieur du bâtiment, ce qui se passait. Et donc on a été le premier média, bien avant l'AFP, bien avant tout le monde, à en parler. J'ai effectivement imposé aux équipes qui étaient à l'antenne. Il se trouve qu'on était en train de parler de la présentation des jumeaux de Monaco. Je sais pas si ce jour, pour moi, est resté gravé. On avait l'image des jumeaux de Monaco à l'antenne. Et j'ai parlé en régie et j'ai dit, on part en spécial immédiatement. Il y a une tuerie à Charlie Hebdo, il y a 10 morts. Je le savais et j'avais pas besoin de conditionnel. La personne qui m'en parlait était à l'intérieur et savait ce qu'elle faisait. On a tenu comme ça pendant une vingtaine de minutes avec effectivement très peu d'informations. Mais ce très peu d'informations justifiait pour moi que l'on continue à ne parler que de ça. Il y avait deux présentateurs remarquables et qui ont été très courageux parce qu'ils ont répété la même chose. On avait des infos qui tombaient petit à petit d'une seule et même source qui était la mienne à l'intérieur. Donc on savait un petit peu plus ce qui se passait et il a fallu le temps que les équipes arrivent sur le terrain pour qu'on ait de l'image de cette fameuse rue, de tout ce qui se passait. Puis voilà, ensuite tout le monde a embrayé là-dessus. Avec en plus la trouille, effectivement, puisqu'on était les seuls à donner l'info de cette plantée. Il se trouve que j'étais très sûr et donc j'avais pas cette crainte-là. Mais nous avons répété pendant 20 minutes, mais c'est normal et j'en ai... Enfin, pour moi, c'est notre métier. C'est-à-dire que effectivement, les présentateurs ont répété, mais la personne qui se branchait sur iTélé à ce moment-là prenait une information qui était qu'il y avait eu une attaque terroriste à l'intérieur des bâtiments de Charlie Hebdo, qu'il y avait 10 morts au moins. Et ils l'ont répété, répété et répété. Mais pour tous les gens qui, j'allais dire, qui arrivaient sur France Info, c'était à chaque fois une nouvelle information.
Jonathan Parienté, vous, par rapport au monde.fr, la façon d'alimenter le fil d'information en continu quand vous êtes en format live, c'est donc uniquement à partir du moment où il y a une information nouvelle qui apparaît que ça justifie le fait que vous réactualisiez ce que vous proposez?
Non, comme je disais tout à l'heure, il y a des redondances, c'est vrai, c'est le même style que ce qui vient d'être dit. C'est on se répète, on fait des points, on fait des l'équivalent de flash info. Après sur les sources elles-mêmes, l'outil qui nous permet de tenir ces lives nous permet en fait d'avoir des sources diverses qui se branchent directement. Enfin, je dis directement, mais il y a absolument une intervention humaine derrière chaque poste, que ce soit un tweet de quelqu'un, etc. C'est qu'on a décidé que ça en valait le coup, que c'était une information. Parce qu'un tweet, si elle émane de Égyptaire, comme c'était cité tout à l'heure, qui dit que l'avion a disparu, c'est quelque chose qui vaut confirmation de la compagnie une fois qu'on a vérifié que c'était bien le bon compte, etc. Mais il y a toujours une intervention humaine derrière. C'est toujours nous qui prenons la décision de le faire. Après, on a quand même acquis des automatismes parce que c'est devenu pas notre façon de faire, c'est une façon de traiter l'information quand elle est en train de se produire. Et c'est à la fois sur des sujets qui sont absolument énormes, type attentat, crash d'avion, etc. Mais ça peut être aussi sur des choses qui sont plus d'ampleur moindre ou sur des choses prévues, mais on fonctionne toujours de la même manière, c'est qu'on ne donne que des informations qu'on a vérifiées par nous-mêmes. Par nous-mêmes, j'entends par la rédaction du Monde, ce qui est relativement simple à dire quand on a 400 personnes, 400 journalistes derrière nous qui travaillent tous dans le même but.
Julie, Julie.
Oui, il y a un travail que ça impose au CFJ, c'est le travail sur les sources. C'est-à-dire que la complexité de tout ce que vous citez là, c'est-à-dire que est-ce que c'est une source en direct qui va vous appeler sur votre portable? Est-ce que c'est une source sur Twitter? Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer sur le terrain? Est-ce qu'on va pouvoir appeler un expert? Toute cette démarche de recherche de la bonne source fait partie effectivement d'aujourd'hui du tronc de l'enseignement commun au CFJ, au point qu'on y consacre 5 semaines. L'enquête a toujours été importante, évidemment, dans les écoles, mais 5 semaines sur l'enquête et les sources, ça montre à quel point c'est difficile pour eux de démêler toutes ces sources.
Pardon. Mais ça peut être quoi, une bonne source, ou en tout cas un bon expert? C'est-à-dire, c'est un expert qui va vous apporter des informations que vous n'aviez pas, ou qui va vous expliquer de manière extrêmement claire pour quelles raisons on ne... C'est pas ce qui est en train de se passer.
Ça dépend de l'information, c'est les deux à mon sens. Il n'y a pas de règle. Je pense clairement que selon les sujets, il y a des très bons experts qui vont simplement vous dire en quoi est-ce que ce que vous racontez là, c'est déjà peut-être produit. En soi, c'est déjà une information. Encore une fois, pour moi, la source, qu'elle soit celle d'un expert ou un accès direct à un témoin ou journaliste qui se déplace, c'est celle qui permet d'apporter de la valeur à l'information. La valeur peut être la vérification, peut être un élément supplémentaire. Voilà.
Si je vous pose la question sur les experts, c'est parce que moi, c'est une catégorie, on va dire, d'individus qui me fascine assez, justement, dans le cas d'événements comme ça qui n'étaient pas prévus. Comment est-ce que vous expliquez, Lucas Manger, par exemple, que des experts, alors en aéronautique, mais ça peut être toute autre chose, sur la sécurité, acceptent finalement de venir quand vous les invitez pour expliquer qu'ils n'ont pas d'autres informations à donner que celles dont vous disposez. Parce que ça arrive quand même très souvent. C'est-à-dire, ils émettent des hypothèses, ils disent, bah voilà, c'est peut-être, ça vient peut-être du pilote, ça vient peut-être d'un acte terroriste,
c'est
peut-être.
C'est pas seulement ça, parce que dans le cas des crashs aériens, par exemple, en l'occurrence, on a plusieurs experts, mais notamment un qui est Michel Chevalet, qui lui-même connaît énormément de pilotes. En fait, avant de passer à l'antenne, on n'est pas complètement kamikaze, hein, avant de demander à Michel d'aller à l'antenne, il travaille, il passe beaucoup de coups de fil. En l'occurrence, ce matin-là, on l'a appelé, il prend sa voiture, il passe plein de coups de fil dans la voiture, il a plein d'infos lui-même. Il appelle les tours de contrôle où il a des copains, il appelle les pilotes, il appelle les syndicats de pilotes, parce que les informations sur les crashs aériens, avant de circuler, y compris à l'AFP, elles circulent entre eux, parce que ils le savent immédiatement. Quand à 3h du matin, un avion se crash, vous pouvez être sûr que tous les pilotes de la région sont au courant. D'abord parce qu'ils se parlent d'avion à avion. Donc tout d'un coup, il y en a un qui il parle d'avion à tour. Donc, en fait, Michel Chevalet, par exemple, quand il arrive, mais c'est le cas, j'imagine, de Michel Polaco aussi, quand il arrive en plateau, il a plein d'infos qui ne sont pas ailleurs. Après, il met du conditionnel, il explique, il dit voilà, j'ai parlé à un tel qui m'explique que ils ont des informations sur les types d'avions, par exemple. Ils savent regarder sur des sites assez particuliers ou sur des listings qui ne sont pas accessibles au grand public les dates de maintenance des avions. Et Michel Chevalet ou un autre expert en aéronautique est capable de dire, attends, cet avion, pourtant, il a été, il a fait une visite de contrôle, quoi, enfin, un contrôle technique, 15 jours auparavant, il a eu un problème il y a un an sur tel vol. Ils ont ces infos. Les experts, on a un peu trop tendance, je crois, à considérer les experts comme des commentateurs. Et peut-être que c'est une dérive ou que ça arrive
quand même de temps en temps.
Ça doit pouvoir arriver.
Sans doute d'ailleurs qu'ils y trouvent aussi un intérêt pour eux, parce que c'est une exposition médiatique et que
ça, bien sûr,
s'ils n'acceptent pas, ce seront d'autres qui accepteront. Et c'est toujours mieux peut-être d'être...
Ça, c'est leur choix personnel d'exposition, de carrière, de notoriété. Et il peut arriver qu'il y ait des dérives, effectivement. Mais la plupart du temps, on essaie d'avoir des experts. C'est le cas dans d'autres domaines aussi, qui apportent des informations.
Bon, moi, en tout cas, je suis toujours finalement assez surpris. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a des gens qui sont capables d'intervenir rapidement, y compris d'ailleurs sur France Culture. Faut pas croire qu'on est totalement absent non plus de cette gestion d'informations importantes. Alors, pas sur les crashs d'avions, mais évidemment les attentats de l'an dernier. Mais je suis toujours surpris que finalement des gens acceptent, quelques heures seulement après qu'un événement de cette nature soit survenu, acceptent de venir quand même discuter. Fabienne Saint-Thèse.
Après, ça dépend de ce qu'on leur demande. L'expert, il est là pour expliquer, pour nourrir. Maintenant, puisque effectivement c'est au moment des histoires de terrorisme qu'on a beaucoup parlé, des pseudo-experts qui sortaient un peu de nulle part et qui avaient tous des CV longs comme le bras, mais dont on savait pas très bien ce qu'ils avaient fait de leur vie. Oui, forcément ça existe. Après, charge pour nous d'abord d'être capable d'évaluer qui est qui. Il arrive un moment où on finit nous aussi par avoir une liste de gens qu'on n'appelle plus parce qu'on sait qu'ils sont pas crédibles, parce qu'on sait pas d'où ils sortent, parce que etc. Et que donc on n'entend pas sur l'antenne. Après, il y a encore une fois, il y a aussi ce qu'on leur demande. Donc charge pour nous aussi. Je pense que ça marche dans les deux sens. Si en matière de terrorisme on demande à un expert, alors j'ai du mal à avoir un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, mais alors est-ce que vous croyez que ça peut être Abdelhamid Abaoud qui est dans cet immeuble, mais qu'est-ce qu'il en sait, je veux dire, et pour le coup je sais pas ce qu'il va répondre, mais la question est mauvaise. Donc charge pour nous aussi de faire en sorte de pas poser des questions auxquelles ces gens ne peuvent pas de toute façon avoir réponse. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous parle effectivement de terrorisme, c'est qu'il nous explique quels sont les plans éventuels de ces gens-là, quels sont les réseaux, pourquoi est-ce qu'il serait resté en Belgique ou pas, etc. Là, oui, on a besoin de discuter avec lui. Et d'ailleurs, ce qu'il nous apportera sera intéressant. Ça s'appelle nourrir quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est crédible qu'il y soit et qu'il n'y soit pas? C'est complètement ridicule. Donc, a priori, encore une fois, ça marche dans les deux sens. Il y a de mauvaises réponses, mais il y a aussi de mauvaises questions.
Petite parenthèse avec une anecdote dont je me souviens. C'est le 11 septembre 2001, au soir, sur France Culture, nous avons une experte. Je ne dirai pas précisément, et je ne vais pas la nommer parce que c'est pas l'objet, mais qui nous expliquait que cet acte terroriste portait la marque du terrorisme palestinien. On a vu que derrière,
oui,
c'était
pas vous savez,
exactement
vous...
comme ça que ça s'était passé.
Mais moi, j'ai couvert les attentats de Madrid qui portaient la main de l'OTA, c'était sûr et certain, jusqu'à ce que le pays entier se retourne et qu'on se rende compte que non, on en était très loin. Donc, et à ce moment-là, on est
sauf
en
qu'à
2004,
ce moment-là, c'est aussi une manipulation du gouvernement
oui,
espagnol.
Oui, mais on est d'accord. Mais on est en 2001, on est en 2004. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas tout ça. Qu'on critique beaucoup, mais qui sert aussi quand même à apporter un certain nombre de choses. Et voyez, sans experts, avec experts, les bêtises, elles arrivent aussi. Donc,
alors, on a évoqué justement la place des experts. Il y a aussi la place des reporters de terrain, des envoyés spéciaux, donc qui sont envoyés sur place ou qui y sont déjà et à qui on demande de fournir des informations. Alors, je voudrais évoquer ce cas dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celui de l'ancienne correspondante désormais au Caire du journal Le Soir, qui est un journal belge. Elle s'appelle Vinciane Jacquet. Et voici ce qu'elle écrivait quelques heures après justement la disparition de l'Airbus sur son compte Facebook. Hier, suite à la disparition de l'avion d'Égyptair, on m'a demandé de ne pas proposer d'article factuel, mais d'insister sur la tristesse des familles et de parler de la sécurité de la compagnie égyptienne. J'ai refusé en expliquant n'avoir eu aucun accès aux familles, puisque la cause de l'accident n'étant pas connue, je ne pouvais accuser ni suggérer la responsabilité d'Égyptair. Aujourd'hui, on me remercie, ce qui veut dire qu'en gros, elle n'a plus de travail. On va pas rentrer dans le détail de savoir si c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais Julie, qu'est-ce que ça vous évoque ça? La pression qui peut être celle des reporters de terrain quand vous avez une rédaction à Paris, par exemple, qui vous dit, bah voilà, il me faut de l'info coco, hein, pour reprendre les pires lieux communs du journalisme. Il faut que tu me fournisses quelque chose parce que justement, on doit remplir l'antenne. Et puis en plus, moi j'ai une dépêche qui me dit ceci, ceci, cela. Donc j'ai besoin d'alimenter de cette manière-là.
Alors déjà sur ce cas précis, moi je peux pas le commenter parce que je sais pas le vérifier non plus. En revanche, c'est arrivé et c'est arrivé moi à des étudiants, à des apprentis, parce qu'on a aussi des apprentis, dans des médias qui viennent me voir et qui m'expliquent que ça leur est arrivé. Et il se trouve que après plusieurs témoignages dans ce sens, mais je pense que c'est arrivé à tout jeune journaliste dans sa rédaction, on a demandé dans les rapports de stage qu'il y ait un chapitre entier dédié à ça, à la question d'éthique, de nous raconter quelle pression éventuellement ils ont subi, soit de leur supérieur, mais aussi de leur source, hein, parce que ça peut arriver aussi dans ce sens-là.
Et c'est très fourni en général, cette partie-là, de leur rapport de stage.
Je ne dirais pas, je ne fais pas généraliser, non, parce que c'est pas égal selon les médias, mais oui, il y a parfois, en tout cas, chaque année, on a des cas de ce genre. Et chaque année, ça suscite une discussion et un échange. Et je dois dire que je suis... faut un sacré cran de la part d'un jeune journaliste, alors je ne sais pas si c'est le cas de cette personne, pour résister à ça, mais c'est quand même possible. Et nous, c'est ce qu'on dit en tout cas aux étudiants et apprentis de l'école, c'est toujours possible de refuser, voilà, et surtout d'inventer quoi que ce soit. Donc, c'est la chose qu'on apprend en tout cas dans une école, et j'espère que ça va les aider. Mais la question se pose et elle peut être terrible si en face de cette pression-là, il n'y a pas de résistance.
Jonathan Parienté, ça avait l'air de vous évoquer quelques souvenirs personnels, non ?
Surtout des... Oui, non, on connaît tous des anecdotes dans ce genre-là. Après, sur le cas précis de cette journaliste qui est en Égypte, effectivement, on n'a pas la version du Soir et du journal Le Soir, donc c'est assez difficile de le commenter. Après, malheureusement, oui, ce sont des choses qui existent. Après, il n'y a pas une ligne extrêmement précise entre une injonction sur quelque chose qui serait totalement différent de la réalité. Après, on peut suggérer un angle à quelqu'un sur le terrain et qui peut nous refuser, nous dire c'est une connerie, ça se passe pas comme ça, tu es à Paris et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut être aussi humble, et si on est des gens sur le terrain, justement, c'est pour que ils nous expliquent ce qui s'y passe et non pas l'inverse. Mais c'est évident que ça existe, et des anecdotes, on en a tous.
Cette pression de la hiérarchie, vous l'avez vécue, j'imagine, sur le terrain, Fabienne Saintas et Lucas Manger. Il y a aussi ce qu'on appelle la dictature de la dépêche, c'est-à-dire à partir du moment où à Paris on a lu la dépêche, si vous êtes en province ou à l'étranger, il faut de toute manière que vous restituiez ce qui est déjà écrit dans la dépêche. Est-ce que vous l'avez vécu ça ? Est-ce que vous le faites vivre aujourd'hui à ceux qui interviennent sur vos antennes ? Ou bien est-ce que vous avez suffisamment de souvenirs de ce que vous avez peut-être subi à l'époque pour en prémunir les reporters de terrain ?
Moi, je suis pas chef, donc j'ai pas ce genre de problème. Mais oui, on a tous évidemment des anecdotes de ce genre-là. Bon. Moi, j'ai surtout souvenir que, effectivement, le contournement était assez aisé. Alors, toute jeune journaliste sortie de l'école, c'est beaucoup plus compliqué, quand même. Hein,
mais, le contournement, ça peut consister en quoi ?
Le contournement, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on nous demande de faire, et puis finalement, le type, il dit pas noir comme c'est marqué dans la dépêche, mais il dit gris, et ça ira très bien comme ça. Et que finalement, d'ailleurs, au bout du compte, quand le reportage arrive, j'ai rarement entendu, mais comment ça, le mec dit gris alors que je voulais qu'il dise noir ? Donc non, enfin, il y a aussi, il y a une espèce de part de caricature là derrière. Bon. Donc oui, ça arrive, oui, c'est contournable, particulièrement quand on est loin. Plus on est loin, plus c'est contournable, plus on peut... De toute façon, en général, ils n'y sont pas. Donc, et c'est de moins en moins vrai parce qu'une génération a changé. Mais les vieux chefs potentats qui n'avaient jamais mis les pieds sur le terrain, sincèrement, il y en a de moins en moins dans les rédacs aujourd'hui. Les chefs, ils sont quarantenaires, ils sont à l'image de Lucas, ils ont été reporters avant, ils savent ce que ça veut dire. Moi qui ne suis pas chef, mais qui suis derrière le micro et qui pose des questions à des gens qui sont sur le terrain, je me souviens de ce que c'était quand je l'étais, et je fais attention, j'espère que j'y arrive, pas tous les jours. je fais attention à pas poser des questions dont je sais qu'ils n'ont pas la réponse. Il s'agit pas de piéger les gens sur le terrain, en fait. Il s'agit d'essayer de faire avancer les choses. Juste pour l'anecdote, sur cette histoire d'Airbus récemment, j'avais François Mferkataji au téléphone et qui me racontait où on en était. Et pendant ce temps, parce que ça se passe comme ça aussi dans la réalité, on me parlait en régie, en train de me dire derrière, t'auras machin, etc. Il est ci, il est ça. Donc j'entendais pas ce que me disait François. Ou en tout cas, une seule oreille. On sait tout ce que c'est. Il y a une oreille qui parle à la régie, l'autre oreille qui entend vaguement ce qui se passe. Et du coup, j'ai reposé à François une question à laquelle il venait de répondre. Et j'ai entendu, comme je viens de vous le dire, et là je me suis dit, alors ça, je détestais qu'on me fasse ça quand j'étais reporter. Je m'en suis terriblement voulu, parce qu'effectivement, je ne l'écoutais pas. Et le béaba, quand on est en spécial, qu'on n'a pas beaucoup d'infos, qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, le béaba, c'est quand même d'écouter la personne qui nous parle. Et tomber dans ce piège-là, je m'en suis terriblement voulu. D'ailleurs, s'il m'écoute, François, pardon, je ne le referai plus jamais.
Bon, je vais faire en sorte de ne pas vous reposer une question, Fabienne. Il n'y a qu'à manger.
Non, je voulais dire qu'on a, en fait, presque le problème inverse, et c'est une question qui rejoint ce que disait Julie Joly sur la formation. Parce que aujourd'hui, évidemment, moi j'ai eu plein d'anecdotes comme reporter avec des chefs qui n'avaient jamais mis les pieds sur le terrain et qui me demandaient des choses absurdes.
Mais ça pouvait donner quoi?
Je demandais quand j'étais à Fallujah, une fois où j'étais à Najaf, de commenter un attentat qui avait lieu à Bagdad, parce qu'il y avait une dépêche, et la rédactrice en chef ne savait pas que c'était pas la même ville. Voilà, pensant que c'était un quartier de Bagdad. Enfin, ce genre de choses. Mais en fait, c'était l'époque avant les smartphones. Et aujourd'hui, on a presque le problème inverse. Je parle là pour le coup en tant que chef. C'est-à-dire que parfois, vous envoyez des reporters à l'autre bout du monde sur une catastrophe, sur quelque chose. Et ils arrivent sur place et ils vous font un direct. Où ils ont tout. Ils disent la réaction de Washington, le truc, ce que dit Paris. Ils ont tout. Ils ont tout parce qu'ils ont les dépêches de l'AFP sur leur téléphone. Ils ont Twitter. Ils ont lu 14 fois le live du Monde comme une bible en disant c'est ça. Et ils savent tout.
Mais ça veut dire quoi dans votre...
Ce que je veux dire, c'est qu'ils en oublient de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et je pense que c'est un micro-problème pour l'instant qui est une étape du journalisme. Mais le journaliste de terrain, à l'époque où Fabienne et moi couvrions les mêmes choses, on était coupés du monde. Les portables existaient à peine, c'était le début. Et donc, en gros, quand ils marchaient pas, on pouvait très bien dire au chef que ça marchait pas. Et on nous foutait la paix, on pouvait aller faire du reportage pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, on est un peu obligé... par moment, de dire à des reporters sur le terrain, tu sais, éteins ton téléphone, prends 3-4 heures, va me raconter ce qui se passe à cet endroit-là, et le reste, tu t'en fous de savoir si l'avion, si c'est telle hypothèse ou telle hypothèse. Ce qui est intéressant dans le cas que vous prenez de cet avion-là, c'est comment ça réagit au Caire, et est-ce qu'il y a une inquiétude vis-à-vis du terrorisme, ou des angles un peu plus précis sur, effectivement, les attaques terroristes en Égypte, mais juste de raconter ce qu'ils voient autour d'eux, en essayant de ne plus être pollué, j'allais dire, par l'intégralité des fils Twitter et des dépêches AFP.
Et ça, d'ailleurs, ça suppose aussi d'avoir les moyens financiers d'envoyer des gens sur le terrain. Et vu l'état d'une partie de la presse aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est sans doute aussi un peu plus compliqué.
Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. Qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé. Qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi, je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Voilà, extrait d'un célèbre sketch de Coluche sur les journalistes.
La chose qui a changé, c'est qu'on ne dit plus milieu autorisé.
Oui, voilà.
Il se murmure.
Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant dans cet extrait, voilà, alors c'est très drôle, mais c'est cet usage du conditionnel pour dire qu'on n'a pas grand-chose à dire. Julie Joly, alors, sur cette question de l'usage du conditionnel, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous déconseillez totalement à vos étudiants, c'est-à-dire à qui vous dites, voilà, si tu n'es pas capable d'écrire ou de parler autrement qu'en utilisant le conditionnel, il vaut mieux ne rien dire? Ou bien est-ce que c'est une forme de prudence et de façon de se préserver, de dire bah, au moins, voilà, oui, j'ai un peu avancé cette information, mais c'est au conditionnel, donc d'une certaine manière, je suis couvert.
En clair, s'il n'y a que du conditionnel, il n'y a pas d'info. Mais il peut y avoir du conditionnel dans une information. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Le conditionnel en soi n'est pas une info. Mais on peut, sur un crash, sur un événement, ne pas tout savoir, avoir des choses à dire. Donc on leur dit toujours, d'abord revenez à la dernière information connue, allez voir des gens qui savent. Mais un conditionnel n'est évidemment pas une information. C'est la règle de base.
Le conditionnel, c'est élaborer des hypothèses. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la presse écrite. Hein. On parle beaucoup de télé, de radio et de presse en ligne. Mais le lendemain de la disparition du fameux Airbus, il y avait 3-4 pages dans les journaux de presse écrite pour élaborer des hypothèses. Ce qui veut bien dire que là aussi, on est dans du conditionnel. C'est peut-être ce qui s'est passé, mais c'est peut-être ça et c'est peut-être autre chose.
Attendez, je distingue tout à fait le fait. Pour moi, il y a une démarche scientifique et celle de l'enquête hein, d'ailleurs. Quand on cherche une réponse, on peut chercher sans avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est comment on a cherché, qui en a vu. Si effectivement, dans la démarche de l'enquête, on a vu des gens qui ne sont sûrs de rien, mais qui ont des probabilités très fortes et qu'on recoupe en recoupant à force d'expertise et d'analyse et d'événements, on approche d'une vérité possible ou probable, oui, le conditionnel est possible. Encore une fois, quand je dis que le conditionnel n'est pas une information, il est tout à fait, on peut l'écrire dans un article. C'est pas un titre, c'est pas un chapeau, c'est pas ça qui déclenche le papier.
Bon, je pensais que la directrice du CFJ allait me dire, moi, non, proscrit absolument l'usage, même
pas.
Si on sait bien que dans la pratique, après, c'est un petit peu différent.
On le proscrit pas.
Et sur le fil live de dumonde.fr, Jonathan Parienté.
Nous, la règle, c'est qu'on ne met pas d'informations conditionnelles. Après, l'utilisation du temps, c'est encore autre chose, mais c'est une information donnée par des confrères, même si c'est des confrères en qui on a toute confiance, on ne la donne pas tant qu'on ne l'a pas vérifié nous-mêmes. Et vous disiez en introduction que c'est. Qu'est-ce qu'on fait d'une info qu'on n'a pas? Et j'ajouterais, nous, ce qui est dur, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une info qu'on n'a pas quand nos confrères ou la concurrence les ont ou croient les avoir? Et ça, c'est parfois assez compliqué, en fait. On s'y tient, on met un effort collectif important à s'y tenir avec le risque que, on ait 2, 3, 4, une journée de 4 heures, une journée de retard sur la concurrence. Mais au moins, ça nous a évité, dans des événements type les attentats de Belgique ou d'autres moments catastrophiques comme ceux-là, nous a évité bien des vu de s'en tenir à ça. Et finalement, on revient à quelque chose de très simple, c'est qu'on vérifie nous-mêmes. Et encore une fois, c'est relativement facile avec une rédaction de 400 personnes.
Mais est-ce que ça vous est arrivé d'afficher finalement cette ignorance, de dire, nous interrompons par exemple ce fil parce que nous n'avons pas d'informations à vous donner que nous aurions vérifiées?
Alors, même un petit peu plus loin, c'est qu'on a dans ce live, on a des questions de nos lecteurs. On a beaucoup, on en passe relativement peu par rapport à la masse de questions qu'on reçoit. Et inévitablement, on est questionné sur avez-vous vu telle information donnée par telle radio, telle télé, tel journal? Et nous, ça nous arrive de dire on a vu, on est en train de vérifier, pour l'instant, on ne peut rien dire. Voilà. Donc on est interpellé là-dessus parce que les gens qui nous lisent sont aussi branchés à France Info, à iTélé, à d'autres lives et ils sont plus du tout captifs. Ils sont pas du tout captifs sur notre live, enfin ça c'est sûr, parce que il y a même des infos parfois qu'on nous donne via les commentaires.
Il y a cette pression du direct, il y a cette pression de la concurrence. Est-ce que l'usage de la pratique de ce journalisme au conditionnel, ça n'est pas une pratique qui se répand de plus en plus par nécessité, justement parce qu'il faut bien alimenter ces chaînes d'information, notamment ces chaînes d'information continue, mais pas seulement, Lucas Manger.
Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'accidents d'information récemment qui peut-être qu'il y avait cette tendance, honnêtement, mais un certain nombre d'accidents nous ont fait changer les règles. Et par ailleurs, les attentats en France et en Europe ont fait grandir un petit peu nos systèmes de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on parle d'un attentat à Islamabad, malheureusement, tout le monde s'en fout qu'il y ait 181 ou 182 morts. Donc quand vous dites 181 et qu'en fait c'était 182, vous n'allez pas faire un correctif. Quand il s'agit des journalistes de Charlie Hebdo, des gens du Bataclan, enfin des gens qui assistaient au concert, vous n'avez pas droit à ces erreurs-là. Et ça nous a fait grandir dans le sens où je pense qu'on a établi tous, on a tous bossé là-dessus, sur faire plus de règles, de sources, des informations. Il y a eu un cas pour nous dans les chaînes d'infos très précis, c'est la fausse mort de Martin Bouygues. Annoncée par l'AFP, reprise par LCI, qui appartient à Martin Bouygues, et donc avec un moment d'interrogation, sauf que tout le monde a oublié d'appeler Martin Bouygues. À LCI, à iTélé, à BFM, à France Info, personne n'a appelé Martin Bouygues, qui pourtant répondait à son téléphone. Voilà. C'est ce genre d'événement j'espère, ne se produisent moins. Je parle pas seulement chez moi, collectivement, parce qu'en plus, voilà, on se regarde tous beaucoup, on s'écoute beaucoup, et je crois qu'on fait un peu plus attention.
Un mot pour conclure, Fabienne Sintès.
Juste, et pour le coup, mais c'est quelque chose qu'on a en commun, et c'est précisément ce genre de choses qui nous fait tous grandir, effectivement. De toute façon, et c'est le cas, alors pour le coup, chez moi, dans ma maison, mais au monde, comme on l'a entendu, j'imagine, à ITL aussi, chaque info sur notre antenne est vérifiée par nous-mêmes. Et on parlait des attentats tout à l'heure, là, c'est faisable. Effectivement, c'est compliqué d'appeler la Turquie pour savoir combien il y a de morts, mais dans une chose aussi violente, aussi furieuse, aussi touchante qu'un attentat chez nous, par exemple, mais en toute chose, faits divers, politiques ou n'importe quoi, rien n'est sur l'antenne de France Info qui n'ait été vérifié par nous-mêmes. Et ça, on y tient mordicus. Si je vois, parce que moi je vois les télés en face de moi, si je vois qu'on dit sur ITL ou BFM, il se passe ça, et que moi je ne l'ai pas, nous on ne le donne pas. Et on s'y tient.
Eh bien, merci. À tous les cas, vous voyez, Fabienne Sintès, vous me disiez tout à l'heure comment on va faire pour parler pendant trois quarts d'heure de l'absence d'information. Mais on y est très bien arrivé. On va même être légèrement en retard ce soir. Merci donc, Fabienne Sintès, Lucas Manger, Jonathan Varianté et Julie Joly d'avoir participé à cette discussion. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer. Un merci spécial à Hugo Florent. C'était notre stagiaire depuis le début de l'année. C'était son dernier live tweet ce soir. Et oui, nous aussi, de temps en temps, on s'essaye au live. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec la prise de son Élise Le Demain. La question sera la suivante: que peuvent les maires face à la radicalisation?